bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire face à l'actualité anxiogène et incertaine. Je vous propose de voyager, oui, le monde sous étiquette quand les explorateurs collectent la nature.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Le 10 juin 1793, l'an second de la République française, la Convention nationale adopte une loi sur les biens communaux. Désormais, ils sont partagés entre les habitants d'une commune. Ils n'appartiennent plus au seigneur, c'est un coup. Et quel coup contre le régime féodal. Mais ce même jour, 10 juin 1793, la Convention adopte une autre loi qui, elle aussi, porte sur les biens qu'offre la nature. La Convention nationale, oui, le rapport de son comité d'instruction publique sur l'organisation générale du Jardin national des plantes et du cabinet d'histoire naturelle de Paris, décrète qui suit, l'établissement, à l'avenir, sera nommé Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, le but principal de cet établissement sera l'enseignement public de l'histoire naturelle, prise dans toute son étendue, appliquée particulièrement à l'avancement de l'agriculture, du commerce et des arts. Ce 10 juin 1793 est donc une date essentielle dans notre rapport à la nature, celle qui nous entoure au plus près et celle qui est au plus loin, celle qui est visitée par les explorateurs. Les richesses naturelles sont-elles un bien commun ? Toute la semaine, le cours de l'histoire se met au vert. Des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, le monde sous étiquette quand les explorateurs collectent la nature. Avec nous, Denis Lamy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, attaché honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est donc à Paris. J'évoquais, Denis Lamy, l'importance de la création du Muséum d'Histoire Naturelle sous la Révolution française en 1793. Il faut rappeler l'importance de cette création qui est malgré tout le fruit d'un intérêt qui est déjà séculaire en 1793, autour de la collecte de la nature. Peut-on parler d'une passion pour collecter, identifier, étiqueter la nature au XVIIIe siècle ?
Ah oui, tout à fait. C'est effectivement le nerf de la guerre sur le XVIIIe. On s'approche des organismes vivants sur le terrain et on va collecter, j'allais dire de temps en temps, à tour de bras, ce qui est un peu dommage. Et surtout, on va essayer de mettre tout ça en collection. Et c'est l'intérêt de la création du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est d'avoir dans son organisation, avoir prévu l'organisation même de cabinets pour les animaux, et pour les plantes, et pour les minéraux. Et pour les plantes, c'est ce qu'on appelle un herbier, et donc la constitution d'une collection générale, avec quelques herbiers particuliers, et c'est vraiment la nouveauté en 1793. Jusque-là, on avait des herbiers particuliers qui étaient la possession des botanistes travaillant au Jardin du Roi.
Oui, une histoire qui est fascinante au sens où elle est encore visible aujourd'hui. Il suffit d'aller faire un tour au Jardin des Plantes, d'aller au Muséum d'Histoire Naturelle, de voir ces collections qui nous donnent le vertige par l'ampleur, par le nombre des spécimens qui sont conservés. Et pour nous parler justement de la collecte de tous ces spécimens, Marie-Noël Bourguet est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Paris. Vos recherches portent sur l'histoire des enquêtes, des voyages, des naturalistes, des expéditions scientifiques. 17e, 19e siècle, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde dans un carnet ». Alexandre von Humboldt en Italie, 1805. Dites-nous, Marie-Noël Bourguet, il est évident que ces explorateurs ont joué un rôle majeur dans toute cette collecte. Il y a quelque chose ici qui dépasse le cadre national de la France. C'est un phénomène complètement européen. Il y a cette république des naturalistes, des échanges constants entre tous ces gens passionnés par la collecte de la nature.
Oui, c'est tout à fait vrai. Mais cela dit, je voudrais cependant nuancer pour une chose qui est de le fait que toutes ces expéditions, tous ces voyages dont on parle pour le XVIIIe siècle, ces grands voyages, ces grandes expéditions, dans leur organisation, ils sont d'abord pensés en termes, je dirais, géopolitique, c'est-à-dire l'achèvement de l'exploration, la recherche de terres nouvelles et l'engagement de voyageurs naturalistes à bord de ces expéditions ou envoyés avec les navigateurs. C'est un complément, mais les destinations sont choisies plus en fonction de motivations géopolitiques que d'idées très claires sur ce qu'on va y trouver en termes de ressources naturelles.
Oui, Marie-Noëlle Bourguet, c'est un aspect qu'il faut souligner. Ces explorateurs qui vont chercher des espèces inconnues qu'il faut découvrir ne sont pas uniquement motivés par le goût de la science. Il y a pour une exploration énormément d'argent, d'investissement. Le commerce est un aspect essentiel. Nous sommes dans des siècles où les épices sont quelque chose qui attire énormément, ne serait-ce que par l'enrichissement qu'ils peuvent permettre. Et puis, il y a, vous l'avez évoqué, la géopolitique qui rentre en ligne de compte. Quelle place prend cette géopolitique dans la mise en place de ces explorations ? Un explorateur, il ne peut pas armer un bateau tout seul, donc il lui faut des soutiens.
Non, c'est sûr. D'ailleurs, dans l'organisation de ces grands voyages, c'est un peu de ce qu'on pourrait imaginer en parallèle actuellement avec l'envoi de satellites dans l'espace. C'est des gros budgets, c'est des grosses expéditions qui sont financées généralement par les États, par les institutions savantes, les compagnies, dans le cas de l'Angleterre, par la Royal Society souvent, et qui n'auraient pu se faire par simplement des intérêts seulement privés. C'est un peu différent dans le cas des voyageurs terrestres, ceux qui sont envoyés à l'intérieur des continents, de façon où là les ordres de grandeur, disons, sont très différents, puisque ce sont des voyageurs solitaires ou en petits groupes seulement, et l'investissement est moindre. Mais même là, c'est souvent quand même des envois, des missions officielles avec un titre, botaniste du roi ou naturaliste du roi, avec une mission.
Oui, ces éléments-là sont à prendre en compte au sens où nous entendons que le pouvoir, hein, botaniste du roi, est essentiel dans la mise en place de ces explorations. Et puis vous avez évoqué, Marie-Noëlle Bourguet, la Royal Society pour l'Angleterre se développe aussi énormément d'institutions parallèles, ou soutenues en tout cas par le pouvoir en place, qui vont aider à ces explorations, qui vont conduire ces explorations et qui vont même mettre en place la ligne, le programme que doivent suivre ceux qui sont envoyés au bout du monde.
Absolument, oui. D'ailleurs, ces institutions rédigent des instructions, des programmes qui sont évidemment des programmes ouverts, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Donc, c'est des instructions qui sont données, sont faites à partir de ce qu'on connaît et par définition ne peuvent pas vraiment prévoir ce qu'on ne connaît pas. Mais il y a cette volonté de contrôler à distance, disons, la collecte qui va se faire, les recherches qui vont se faire et surtout la peur que ça soit fait dans le désordre.
Voilà, donc géopolitique contrôlée à distance. Nous sommes loin d'une vision pour faire avancer la science, d'explorateurs qui parcourent le monde et puis de l'intérêt des grands de ce monde à la recherche de plantes nouvelles. Telle que cela a pu être présenté, je vous propose d'écouter une discussion entre le roi Louis XIV, qui est joué par Bernard Deran, Louis XIV qui discute avec une courtisane dans les jardins de Versailles. C'est dans l'émission Écho du Grand Siècle, une émission de septembre 1966, une fiction radiophonique.
Eh bien, que vouliez-vous dire contre mes jardins ?
Je les vois déjà. Mmh. Ils sont nobles. Ils sont beaux. Mmh. Ils me désolent.
Mon Dieu.
Oui, ils me désolent. Ils seront froids, austères, ennuyeux. Comme un traité de Monsieur Descartes. Faire de la géométrie avec des arbres. Faudra-t-il que les oiseaux y chantent en mesure ?
Ah, votre esprit m'enchante. Vous êtes tout à fait charmante, savez-vous. Mais je ne vous prendrai pas comme jardinier. Oh,
vous vous moquez, sire. Vous avez raison. Je n'aurais jamais dit...
Si, mais je comprends très bien. Je comprends ce qui vous choque. Vous êtes femme, vous acceptez la nature. Je suis homme. Mon intelligence, puissance négative, s'oppose à elle. Je suis roi, je veux la plier à mon désir. Nos points de vue sur mes jardins sont aussi différents que nos êtres et dans une mesure identique. Vous êtes amour et je suis volonté.
Voilà, le roi qui discute avec une de ses courtisanes, Louis XIV, qui développe une certaine vision de la société, puis une vision tout simplement des jardins, ces jardins considérés comme ennuyeux, comme un traité de Monsieur Descartes. Denis Lamy, nous évoquions le Muséum d'Histoire Naturelle, qui a été créé en 1793, sous la Révolution française. Il est héritier, en fait, de tous ces jardins du roi, de toutes ces expériences, en fait, qui oscillaient entre la véritable recherche scientifique et la curiosité.
Ah, j'aurais pas dit ça comme ça. C'est vrai que le muséum, en 1793, hérite d'une tradition importante, notamment de celle du Jardin du Roi, qui est créé en 1635, et qui est créé pour avoir la plus grande collection botanique, de façon à donner à voir et à étudier aux apothicaires et médecins de cette période du début du XVIIe. Donc ce qui est important, c'est que on va constituer certes des collections vivantes qui vont être agréables à l'œil, mais aussi à chaque fois dans le jardin et dans l'implantation que fera Tournefort début 18e, réorganisée fin 19e par Antoine Laurent de Jussieu, on a une école de botanique qui montre un savoir botanique organisé pour l'enseignement.
Et alors ce savoir botanique organisé pour l'enseignement a ces doubles aspects d'une utilité pour éduquer ceux qui vont devenir les savants au niveau de la nation. Et puis, il y a ce regard international, montrer la puissance d'un souverain. Marie-Noëlle Bourguet, ces explorations sont aussi des éléments ostentatoires pour afficher la puissance.
Oui, bien sûr, et elles sont aussi un enjeu pour affirmer cette puissance. Il y a des prises de possession de territoire et d'exploitation des richesses ou des ressources qui sont possibles. Je voudrais quand même bien souligner le fait que du déplacement dans les fonctions du Jardin du Roi, devenu Muséum d'Histoire Naturelle, Denis Lamy le soulignait, le Jardin du Roi, il naît comme simplement un jardin médicinal, en fait, des plantes pour les médecins. La botanique au XVIIe siècle n'est pas une discipline constituée comme telle, elle dépend de la médecine, elle est enseignée dans les cours, dans les facultés de médecine. C'est seulement au cours du XVIIIe siècle qu'elle finit par s'autonomiser comme discipline. C'est seulement en 1730 ou 32 que le Jardin du Roi est dirigé par un personnage qui n'est plus un médecin. Et de même, pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la plupart des botanistes ou des voyageurs naturalistes qui sont envoyés sont des médecins de formation. Donc il y a un lien avec la médecine qui est très très fort, et c'est tardivement que se déploie une conception plus ouverte de l'histoire naturelle qui inclut toutes les ressources, y compris, et c'est au XVIIIe ça devient très important, les ressources agricoles, les ressources économiques possibles. Il y a cette idée d'aller récolter, compléter ce que la nature n'a pas fait en allant chercher ailleurs des plantes qui pourraient compléter les ressources nationales. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de Turgot, on envoie en Amérique du Nord et du Sud des voyageurs pour rechercher au nord des plants d'arbres, au sud des graines qui pourraient faire des ressources de céréales pour compléter éviter les famines, qui sont donc très nettement dans une optique économique.
Oui, une optique économique et puis une optique de commerce. Il y a aussi ce sentiment au XVIIIe siècle que le possible n'a pas de limite. On peut aller toujours plus loin. Tout est envisageable, et vous avez évoqué, Marie-Noëlle Bourguet, la volonté de lutter, évidente, contre les famines, ne serait-ce même contre les disettes. Et cette idée qu'il est éventuellement possible de trouver à l'autre bout du monde la plante qui va permettre d'améliorer la qualité de vie en France, si on parle du cas français, c'est quelque chose qui motive aussi l'envoi de ces explorations.
Oui, absolument. Et ça, c'est très, très net à la fin du XVIIIe siècle. Et notamment, c'est le rôle que joue André Toin au Jardin du Roi, puis qui devient ensuite professeur dans le nouveau muséum, qui est d'essayer d'acclimater dans son jardin les plantes, les graines, les semences, les spécimens rapportés par les voyageurs dans l'espoir de compléter, d'enrichir la flore nationale, disons.
Oui, d'ailleurs, André Touin, qui est professeur et qui est administrateur du Muséum d'Histoire Naturelle, s'adresse au jardinier qui accompagne la Pérouse Grande Exploration, avec cette volonté presque de hiérarchiser les végétaux qui doivent être collectés. Il faut donner la priorité à ce qui peut être utile à la population. Et puis, tout à la fin, on prendra ce qui est curieux. Mais vraiment, c'est l'utilité qui prime.
Oui, je sais pas s'il est si... Enfin oui, il y a cette dimension d'utilité qui est prime, mais je ne sais pas s'il fait vraiment une distinction entre curiosité et utilité. Je pense qu'il pense que tout peut être utile au sens renouveler enrichir la flore, avec la conscience des limites de l'acclimatation et l'impossibilité de rêver à une unification végétale complète.
Oui, et puis le mot « rêver » apparaît dans le cours de l'histoire sur France Culture au moment où nous évoquons ces explorations, les explorations des naturalistes à la découverte de la nature. Eh bien, justement, nous allons rêver avec La Pérouse, donc grand explorateur, dans l'émission « Connaissance de l'homme ». C'était en août 1956 quand André Bridoux, philosophe, évoquait l'intérêt pour les récits d'aventure.
Quand La Pérouse partit en 1785 pour son grand voyage avec ses deux navires, la connaissance de la Terre était en bonne voie. Non seulement en bonne voie, mais à la mode. Depuis longtemps. Dès le XVIIe siècle, on commentait avec passion toutes les relations de voyage, dans les milieux scientifiques et maritimes, bien entendu, et aussi dans les salons, dans les familles. De nos jours encore, les plus de 60 ans peuvent se rappeler l'attrait que gardaient dans leur enfance les récits d'aventure et le mystère des pays lointains. L'intérêt passionné pour la connaissance de la Terre se doublait naturellement d'un intérêt non moins vif pour la connaissance des hommes de tous les pays.
André Bridoux, philosophe qui évoquait l'exploration de la Pérouse, enfin malchanceuse, hein. C'était un extrait de l'émission Connaissance de l'Homme en 1956. Cette exploration, la Pérouse, à la fin du XVIIIe siècle, est un moment important. Elle a été énormément commentée, cette expédition. Marie-Noël Bourguet, vous avez déjà donné des éléments de réponse sur ceux qui partent à l'aventure, ceux que l'on appelle les naturalistes. En fait, le profil type est difficile à identifier. Tous les cas sont possibles.
Oui, absolument. Ça dépend du type de voyage qu'on envisage, d'ailleurs. Mais pour ces expéditions lointaines, il n'y a pas de notion de métier. On n'est pas voyageur par métier. On a une autre fonction, on est missionnaire, on est médecin, et il se trouve qu'une occasion de voyage se présente. Il y a aussi d'ailleurs des expéditions sans botaniste à bord et il est demandé à tous les capitaines d'essayer de rapporter des semences, des graines, des spécimens qu'ils donneront à l'arrivée dans les ports d'arrivée pour qu'ils soient ensuite transmis vers le Jardin du Roi. Donc il y a une très très grande variété de personnages, de personnalités, avec une grande priorité à des voyageurs qui ont une formation de médecin au départ, parce que c'est comme ça qu'on a une formation en botanique, des connaissances sur la botanique ou ou la faune ou les sciences naturelles.
Oui, nous comprenons bien que ce profil d'explorateur, en fait, est une construction, une étiquette aussi, qui nous permet de comprendre facilement les choses. Mais tout est possible, et vous le dites nettement, Marie-Noël Bourguet, c'est vrai que n'importe quel navigateur, capitaine d'un navire qui fait du commerce, si on lui apporte une plante étonnante, eh bien, il peut la ramener pour la donner au muséum. Et là, on retrouve Denis Lamy pour ce muséum. C'est un peu une conversation constante entre ceux qui voyagent, particulièrement pour des explorations, mais qui voyagent aussi pour du commerce, et puis ceux qui se trouvent pour le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, mais il y a des muséums un peu partout en France et partout en Europe, qui échangent sans cesse. Hein. Il y a ce dialogue constant.
Alors, le dialogue constant entre les muséums en France et le Muséum National, disons, à Paris, il va se mettre en place qu'au cours du 19e. C'est pas la notion muséum dans les différentes localités en France est quelque chose de relativement tardif par rapport aux grandes expéditions. Ce qui est important à retenir, c'est que la création d'un herbier, donc d'une collection dite nationale, va permettre de réunir un ensemble de collectes qui étaient jusque-là relativement dispersées chez les uns et chez les autres, et qui va faire un ensemble cohérent, enfin du moins qui est constitué comme un ensemble cohérent, à côté duquel on va constituer aussi des ensembles particuliers pour les régions qui sont visitées et qui sont en fait le résultat de la géopolitique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois l'herbier représente un ensemble végétal cohérent et d'autre part un aspect politique dans ces collections qui va permettre aux voyageurs qui vont partir de pouvoir regarder déjà ce qui a été récolté et éventuellement d'avoir une idée de ce qu'on pourrait récolter dans les régions. Ça, c'est quelque chose qui n'a seulement disparu que dans la réorganisation de l'herbier récemment en 2013. Donc ça, je trouve que c'est un point important.
Oui, c'est ce que je voulais vous demander justement. Est-ce qu'il reste trace de cette organisation aujourd'hui dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle? Donc la trace de l'organisation qui a été mise en place à l'origine du Muséum est restée pendant très longtemps. Il y a une réorganisation très récente en fait.
Alors la réorganisation est très récente, elle est d'autant plus récente que c'est quelque chose qui est énorme. Quand vous avez à remuer plus de 8 millions de spécimens pour les réorganiser en fonction de nouvelles classifications, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près et de travailler en amont. Donc là, on a eu une accumulation dans l'herbier d'un certain nombre de collections qui sont arrivées, soit par des dons, soit qui sont des résultats de voyage, donc suite à ce que expliquait Marie-Noël Bourguet. Mais en même temps, on a des collections privées qui vont rentrer là, comme ça, parce que les gens décident de léguer leurs collections au muséum, parce que c'est le meilleur endroit pour pouvoir les travailler. Il y en a d'autres, en revanche, qui ont dit « Non, je ne mettrai jamais mes collections au muséum parce que, de toute façon, elles ne sont jamais étudiées et jamais accessibles. » Faut revoir le muséum au 19e, dans le laboratoire, enfin, ce qu'on aurait pu appeler le laboratoire de botanique, il y avait trois personnes, le professeur, un assistant et un technicien. Et quand vous avez une masse de documents qui arrivent, les spécimens ne sont pas forcément organisés comme on voudrait.
Voilà, et puis Denis Lamy, vous nous dites, et de manière étonnante, mais que le muséum peut être critiqué par ceux qui disent non, les collections ne sont pas accessibles. Il y a un débat autour du muséum, tenez, je vous propose, mais comme un sourire, un extrait du film Museo Museba, ce film qui s'intéresse au musée de Jean-Michel Rive, un film de 2008, où Michel Blanc, directeur de musée, est horrifié par la présence de plantes. Mais attention, pas de plantes dans un herbier, hein, de plantes vivantes.
Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque, je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte, abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui vent, sel et marée veulent reconquérir. Les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts. où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints ? Non ! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Voilà.
Voilà, au moins c'est dit. Michel Blanc, qui joue le directeur de musée dans le film Muséo, Muséba de Jean-Michel Ribes. Dites-nous, Denis Lamy, alors c'est un sourire autour de cette évocation de « il ne faut pas de vivant dans un musée ». Et au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que le vivant ? Est-ce que la mise en place du Muséum d'Histoire Naturelle, qui récupère tout ce qu'on amène du bout du monde, a transformé la manière de concevoir la nature ?
Oh ben, forcément, puisqu'on a eu, on a eu sur le site même un certain nombre de, enfin, l'organisation d'une recherche sérieuse, si je puis dire, avec les outils qu'il fallait. Mais on a, alors, contrairement à ce que Michel Blanc nous disait, on a l'avantage aussi au muséum d'avoir à la fois des collections sèches, comme les herbiers, mais aussi des collections vivantes. Oui. Et aussi des collections vivantes. Donc, en fait, cette association entre le vivant et le sec est une association qui doit perdurer. On peut pas travailler sur les plantes sans de temps en temps aller revoir le spécimen vivant. Alors l'avantage d'un herbier aussi, c'est le fait que même après 100 ans, on peut réobserver la plante, pas tout à fait dans l'état dans lequel elle était, mais enfin au moins avec des cellules qui régénèrent un petit peu. Donc ça, c'est l'objet de travail, reste l'herbier et le travail sur le terrain.
Oui, et puis il y a ce jeu, effectivement, au Muséum National d'Histoire Naturelle, entre ce que vous appelez le sec, Denis Lamy, je trouve que c'est très clair, le sec et le vivant, il y a la ménagerie, il y a les serres qui sont absolument fabuleuses, mais pour remplir cette ménagerie, ces serres, cet herbier, toutes les collections, il faut collecter. Marie-Noëlle Bourguet, comment se passe la collection? Est-ce qu'il y a une réflexion au moment de la collecte, au moment où l'explorateur, le naturaliste se trouve sur une île, de dire voilà la manière de prendre les choses et de les collecter? Ou est-ce que tout cela est extrêmement empirique?
Bon, c'est extrêmement empirique d'une certaine façon, et je voudrais d'abord distinguer entre la situation des voyageurs selon qu'ils sont à bord d'un bateau ou à l'intérieur d'un continent. Parce que les voyageurs les botanistes qui sont à bord d'expéditions maritimes ont des conditions de voyage très particulières. D'une certaine façon, ils ont plus de facilité pour stocker, dans des conditions de conservation pas toujours parfaites d'ailleurs, mais enfin, ils peuvent stocker plus d'échantillons de plantes, éventuellement d'animaux, encore que ça soit compliqué, et de pierres, encore que ce soit lourd, à la différence des voyageurs qui pénètrent dans l'intérieur des continents, qui eux sont seuls ou en petits groupes avec une équipe de guides et de porteurs, mais qui peuvent évidemment moins compter sur la capacité de collecte. Une deuxième différence, c'est les conditions de voyage, puisque les voyageurs qui sont à bord de bateaux, au fond, leurs escales sont souvent assez brèves, et il y a une rivalité permanente. J'ai dit tout à l'heure que les expéditions avaient des buts souvent géopolitiques, et notamment la cartographie et le repérage des territoires, des terres, est quelque chose qui prime. Et les marins sont souvent excédés par le désir des botanistes ou des naturalistes de vouloir faire escale de prendre trop de temps au cours des escales. Donc il y a une sorte de rivalité entre les deux attitudes qui fait qu'au XIXe siècle, on ne prendra plus, après l'expédition Baudin où il y a eu de façon un peu accentuée cette rivalité, il sera décidé par les expéditions françaises de ne plus employer de naturalistes civils, mais seulement des officiers de marine pour éviter ces rivalités. Alors, comment se fait la collecte ? Il y a bien sûr eu une évolution par rapport depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. La fascination pour le curieux, le rare, le différent laisse place de petit à petit à une curiosité qui doit toucher l'ensemble de la flore des pays que l'on visite, même celles qui semblent pas nécessairement les plus curieuses ou les plus étonnantes, mais peut-être qui peuvent être utiles. Il y a donc une généralisation de l'intérêt pour les flores étrangères, pour les flores différentes, sans que ça soit véritablement systématisé ou la pensée de ça est pas nécessairement très systématisée.
Oui, et puis chacun fait un peu comme il conçoit son exploration et puis selon son talent également. Je vous propose un extrait des carnets d'un explorateur et un des plus réputés et sans doute un des plus intelligents, Alexandre de Humboldt, qui écrit en 1799, le 16 juillet 1799, à son frère Willem. Et Humboldt se trouve à ce moment-là pas très loin des côtes vénézuéliennes. Il est juste au départ des rives du Nouveau Monde et il cherche à comprendre ce monde. Et nous entendons dans ce qu'il écrit, c'est une lecture d'Olivier Martineau, combien il est fasciné par tout ce qu'il découvre.
Nous sommes ici d'abord dans le pays le plus divin et le plus riche. Plantes merveilleuses, gymnotes, tigres, armadilles, singes, perroquets, et quantité d'indiens à demi sauvages, race humaine très belle et intéressante. Nous n'avons pas encore rencontré une seule production végétale ou animale d'Europe. Quels arbres! Des cocotiers de 50 à 60 pieds de haut, la Ponchiana pulcherrima, avec des bouquets d'un pied de haut de fleurs d'un rouge vif, magnifique. Des bananiers et une masse d'arbres avec des feuilles monstres et des fleurs parfumées de la grandeur de la main, dont nous ne savons rien. Nous étions si heureux de trouver dès hier cette magnifique plante. Elle avait des étamines d'un pouce de long. Combien sont nombreuses aussi les plantes plus petites, non encore observées. Et quelle couleur possèdent les oiseaux, les poissons, même les écrevisses, bleu de ciel et jaune. Nous nous promenons jusqu'à présent comme des fous.
Olivier Martineau qui nous disait un extrait d'une lettre d'Alexandre Humboldt à son frère en 1799. Marie-Noël Bourguet, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde dans un carnet », Alexander von Humboldt en Italie, 1805. Il faudrait nous présenter cet homme. Il est essentiel dans la réflexion sur ce qu'est la nature, sur la collecte de la nature.
Oui, alors évidemment, Alexandre Humboldt est un personnage un peu à part par l'espèce de portrait collectif qu'on vient d'essayer de tracer de ces voyageurs, parce qu'il est riche, aristocrate, formé, il est ingénieur des mines, mais passionné par l'histoire de la terre, par la nature, et il a assez d'argent pour avoir décidé de quitter son poste d'ingénieur des mines pour décider de voyager à ses frais. Et il a rencontré à Paris un jeune botaniste, Aimé Bonplan, un Français de La Rochelle, à qui il propose de voyager avec lui, donc assez aux frais de Humboldt. Et donc tous deux partent. La destination du voyage n'avait pas tellement d'importance pour Humboldt. Il voulait aller quelque part. Il pensait aller plutôt vers les Indes orientales. Finalement, il a la possibilité de partir en Amérique. Il part en Amérique, une expédition qui va durer plus de 5 années. Qui veut couvrir tous les domaines de la nature, les plantes, les animaux, et surtout je vais insister là-dessus, les relier à leur environnement physique. Cet émerveillement de la découverte de la nature lorsqu'il met le pied sur la terre américaine, qui vient d'être lu, c'est quelque chose que l'on trouve de façon répétitive chez tous les voyageurs qui arrivent, et notamment dans ces régions tropicales où la luxuriance de la nature frappe ceux qui arrivent d'Europe. Ils répètent d'une certaine façon, le même geste que Colomb, arrivant 3 siècles plus tôt sur la côte caraïbe, disant « il y a des poissons qu'on dirait peints aux plus belles couleurs du monde, bleu, jaune, rouge et de toutes les couleurs, tandis que d'autres sont bariolés de 1000 façons différentes ». Il y a cette même émerveillement. Et bien sûr, à partir de là, la volonté de maîtriser cette profusion, de la collecter, de la classer. Une chose intéressante chez Humboldt, c'est que, à part la volonté de collecter et de classer, ce qu'ils ont fait pendant les 4 années, les 5 années de leur voyage, au point de rapporter en Europe plus de 60 000 spécimens de plantes, représentant à peu près plus de 6 000 espèces différentes. Humboldt a partagé sa collection en 3 herbiers et il a fait don de l'une d'entre elles de l'un des herbiers au Muséum d'Histoire Naturelle, justement, ainsi que des spécimens de zoologiques. C'est qu'il ne s'intéresse pas seulement à la classification et à la nomenclature, à l'idée de l'inventaire de la nature. Il explique très bien qu'il ne veut pas être un nomenclateur, qu'il ne veut pas être seulement celui qui a ajouté des nouvelles plantes à la connaissance générale, même si c'est important. Ce qui l'intéresse, c'est d'interroger l'unité de la nature. Et il, dans la lettre que vous avez citée, il prolonge en disant « Mais ce qui est le plus beau que ces merveilles prises en particulier, c'est l'impression que produit l'ensemble de cette nature végétale, puissante, exubérante, et cependant si douce, si facile, si sereine, etc. » C'est-à-dire, ce qui lui importe, c'est d'essayer de comprendre la nature en grand, telle qu'elle se présente dans son unité, comme un tout dont tous les éléments sont articulés. Et de ce point de vue-là, il y a un apport, évidemment, c'est cela qui reste de lui peut-être le plus important, c'est sa volonté de lier la nature organique, les plantes, les animaux, avec la nature inanimée, l'environnement, l'histoire de la terre, l'histoire du climat, et d'articuler sa collecte naturaliste aux observations des conditions environnementales. Par exemple, il est une des apports les plus célèbres qu'il ait fait, c'est de revenir d'Amérique avec le dessin d'une coupe de montagne, le Chimborazo, le volcan, représentant l'étagement de la végétation en fonction de la température, de l'altitude, de la pression, et d'avoir pris des mesures systématiques pour essayer d'articuler les différents types de végétation à leurs conditions physiques. Il n'est pas absolument le premier à avoir noté cet étagement de la végétation et ces formes différentes qui se succèdent dans l'espace en fonction de l'altitude ou de la latitude. Linné l'avait déjà dit, et en France, des naturalistes plus provinciaux comme un auquel je tiens particulièrement parce qu'il est ardéchois, Giraud sous la vie, ont déjà noté cet étagement, mais il lui donne une ampleur et il en fait un objet d'étude de façon particulièrement importante et qui est très importante dans la pensée de l'environnement.
Comprendre l'articulation dans la nature et même l'unité que représente la nature. Le Muséum National d'Histoire Naturelle n'est pas simplement un lieu où s'accumule avec une volonté d'exhaustivité tout ce que la nature a comme espèces différentes d'herbes, de végétaux, d'animaux, de minéraux également. Denis Lamy, dans la volonté du Muséum National d'Histoire Naturelle, ce n'est pas juste un énorme hangar où on collecte les choses, il y a aussi cette compréhension d'un ensemble que représente la nature.
Oui, bien sûr. Et alors, pour poursuivre ce que vient de dire Marie-Noël Bourguet, l'intérêt qu'apportait Humboldt à l'ensemble de la nature et dans sa complexité et dans son émerveillement d'ailleurs, parce que Humboldt a des descriptions qui sont absolument magnifiques, ça a une influence directe sur la façon dont les collections vont se constituer. C'est-à-dire que quand vous récoltez une plante, que vous la mettez en herbier, vous lui mettez une étiquette pour indiquer le nom et le lieu de récolte. Et petit à petit, cette importance du lieu de récolte et des conditions dans lesquelles la plante vit vont être associés au spécimen qui est conservé. Donc, quand on va revenir sur ces collections anciennes, et notamment cette information va se développer dans les premières années du 19e, on va avoir des informations plus précises que d'avoir une récolte qui a été faite au Pérou ou à Tombouctou. Donc, on est sur une collection organisée sur laquelle on peut revenir et travailler. Et l'intérêt de cette unité générale dans un cadre particulier qui est le muséum et qui permet notamment une accumulation, enfin pas une accumulation, mais disons la constitution d'un ensemble conséquent, fait que c'est un herbier qui est à l'égal de celui du British Museum ou celui de la Smithsonian Institute. Donc on est dans la même démarche générale à travers le monde, c'est d'avoir à portée de main un ensemble de spécimens qui ont été récoltés à différentes époques et d'essayer de comprendre a posteriori quels pourraient être éventuellement les changements qui ont pu y avoir dans les flores et grâce aussi à ces étiquettes qui ont été de plus en plus précises.
Le 10 juin 1793, le Muséum National d'Histoire Naturelle est créé avec un but principal, c'est ce que dit le décret de la Convention nationale, c'est l'enseignement public. Eh bien, je vous propose une petite visite au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est en juin 1958 avec Madame Letouzet, Yvonne Letouzet, l'épouse de René, spécialiste de la flore de l'Afrique centrale et surtout des enfants.
Ce que je voudrais vous demander, Madame Letouzet, c'est ce que vous avez essayé de faire en réunissant tous les jeudis depuis 1956 les enfants au Muséum d'Histoire Naturelle. Est-ce que vous vouliez leur apprendre l'histoire naturelle, leur apprendre le dessin, enfin on ne sait plus, passer un jeudi tranquille loin des parents?
Non, je veux d'abord les initier à l'histoire naturelle, c'est-à-dire surtout leur donner le goût de la nature, leur apprendre à observer et en même temps leur apprendre à s'exprimer par la parole, à s'exprimer par le dessin, à exprimer ce qu'ils admirent et ce qu'ils ont remarqué dans la nature, ce qui les intéresse.
Qu'est-ce que vous avez... On va en prendre un au hasard. Toi, tu as absolument temps. Bon, tu as envie de nous parler du muséum. Qu'est-ce que tu as vraiment trouvé de plus beau, de plus riche, de plus amusant au muséum? Et le plus beau, je dis. Celui des volcans, celui des papillons,
celui de la préhistoire.
Celui des singes.
Celui de la préhistoire. Ah, tiens, j'ai l'impression que la préhistoire recueille une majorité. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Quel animal as-tu fait?
Le dinosaure.
La préhistoire. Tu as fait le dinosaure?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que c'est le tricératops, si je ne me trompe, qui avec ses trois belles cornes. Qu'est-ce qu'il en a fait? À toi? Ah oui, qu'est-ce que vous avez encore fait? Il y a un animal qui a l'air.
Le diplodocus.
Ah, tu as fait le diplodocus,
moi aussi.
Voilà, merveille de la passion des enfants dans un musée. Là, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle en 1958, où il est question des animaux préhistoriques. Il y a cet aspect que vous avez évoqué, Denis Lamy, et que l'on doit absolument souligner dans cette histoire de la représentation de la nature, ce mot d'évolution. Et Darwin doit apparaître ici, parce que Darwin est dans cette démarche d'exploration. C'est lui qui sillonne le monde. Marie-Noëlle Bourguet, il y a... J'ai pas envie de dire au bout, j'ai envie de dire parmi l'histoire de ces explorations, ce moment incroyable de la fin du 19e siècle, quand Darwin donne encore une nouvelle conception, c'est l'évolution.
Oui, alors, on va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai qu'il y a un problème qui est très impensé, au fond, par les voyageurs jusqu'au 19e siècle, c'est la question... du temps, la question de la durée. On observe une grande diversité, une grande hétérogénéité de la faune, de la flore à l'échelle de la planète. Et finalement, le rôle des voyages a été de le souligner. Et on n'a pas de possibilité d'explication de cette diversité. Dans la chronologie que propose la Bible, longtemps ne permet pas de penser cette diversité. Est-ce une diversité créée? Est-ce une diversité qui s'est produite par des séries de catastrophes? La difficulté, c'est de penser cette temporalité, enfin une temporalité de la nature. Et au fond, ce qu'a fait Darwin, et notamment avec son escale aux îles Galapagos, c'est d'observer des changements, enfin la possibilité de changements imperceptibles au cours du temps, qui finalement, une espèce d'animal se trouve par hasard mieux adapté à des conditions locales et va être plus apte à survivre et que d'autres qui vont disparaître, et ainsi se fait l'évolution. Donc ce qu'il appelle la descendance avec modification, c'est-à-dire que seules les espèces adaptées vont survivre aux dépens des autres, va donner une ouverture, une possibilité de faire entrer l'extraordinaire diversité de la nature dans une pensée temporelle. Mais ça ne... Et finalement, Darwin publie pose cette pensée au moment de la disparition de Humboldt, qui lui, en 1859, paraît le dernier ouvrage de Humboldt et l'origine des espèces, comme une sorte de correspondance. Humboldt n'a pas pensé cette temporalité. Il se posait le problème. Il posait le problème de comment penser l'hétérogénéité des diverses flores régionales, par exemple, sans avoir d'outils pour aller plus loin.
Voilà, donc une pensée qui se construit, une pensée de plus en plus complexe autour de ce qu'est la nature, une pensée que l'on retrouve au Muséum National d'Histoire Naturelle avec l'évidente fascination de ces collections, Denis Lamy, en quelques mots, vous êtes attaché honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, on peut le dire, c'est juste un plaisir, et vous le voyez quand vous traversez les salles avec les visiteurs et vous-même quand vous allez dans les réserves, il y a toujours quelque chose qui fait briller les yeux.
Oui, il y a toujours quelque chose qui fait briller les yeux et on est très surpris de voir cette brillance dans les yeux des visiteurs. Parce que quelquefois, on montre un spécimen qui apparemment, que nous on connaît par d'autres côtés et qui tout d'un coup pose un certain nombre de questions auxquelles on ne s'attend pas. Mais je voudrais revenir sur notre cher Darwin.
Allez-y en quelques mots.
Oui, en quelques mots. Je voudrais quand même préciser que cette notion d'évolution vue par Darwin a très peu été prise en compte par les botanistes, jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est quelque chose qui existait, mais qui n'a pas été véritablement utilisé par les botanistes. Au moins dans cette période. Et c'est d'autant plus vrai que cette notion du temps dans cette temporalité, comme dit très bien Marie-Noël, n'est pas quelque chose qui prédomine dans les recherches, du moins, qui sont menées au muséum.
Alors, les recherches menées au muséum à poursuivre et à réfléchir. Merci beaucoup, Denis Lamy, de cette vivacité du muséum qui n'est pas juste un entrepôt de spécimens, qui est toujours quelque chose d'étude et de vivant. Et merci beaucoup à vous aussi, Marie-Noël Bourguet, de nous avoir fait voyager en compagnie des naturalistes. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, définir le terrorisme, une histoire sans fin.
Conflans-Sainte-Honorine, Nice, Vienne, cet été Berlin, Glasgow, Jolo. Les attaques terroristes se sont installées dans l'actualité bien avant ces derniers mois. La plupart du temps, les gouvernements des États victimes de ces attaques déclarent une guerre à leurs auteurs et annoncent une série de mesures destinées à la fois à en finir avec les coupables et à retrouver la sécurité intérieure de leur pays, pris par l'émotion et la nécessité de retrouver la cohésion d'une société terrassée par la peur et l'anxiété. Mais pour établir les moyens adaptés à la lutte contre le terrorisme, il faut le définir et c'est là que le bât blesse. Si chaque État a sa propre définition, il n'existe pas de définition juridique universellement reconnue d'une pratique pourtant largement transnationale. Tous les moyens sont alors affichés, légaux ou non, dompter la peur et promettre sa disparition, c'est bien souvent le premier temps du lendemain d'un attentat dont la violence est présente à l'esprit de toutes et tous.
Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences, ne sont ni discutables, ni négociables.
Définir le terrorisme, une action complexe qui laisse non pas sans voix, mais sans réponse. Depuis le 11 septembre 2001, des armées de juristes se sont penchées sur ce problème, sans parvenir à un consensus recherché depuis le 19e siècle. En 1898, une conférence internationale est organisée à Rome pour établir une défense commune contre le terrorisme anarchiste. À cette date, un événement légitime pleinement cette concertation. L'assassinat d'Élisabeth d'Autriche, commis par un Italien sur le sol suisse. L'émotion est immense, des rumeurs circulent aux quatre coins du monde à propos d'un complot mondial sur le point d'éclater au grand jour. Surtout, les opinions publiques font pression pour en finir avec une vague d'attentats sans frontières. La conférence de Rome parvient à définir l'anarchisme, mais pas le terrorisme, car au cours des débats, deux positions s'affrontent qui vont ériger le terrorisme en nœud gordien des relations internationales pour bien longtemps. Les pays libéraux présents, la Grande-Bretagne, la Suisse, la France, affirment leur volonté de cibler la violence terroriste elle-même, tandis que les régimes autoritaires, les empires prussiens et russes, y voient l'occasion de lutter contre leurs opposants politiques. Les discussions vont tourner court après avoir largement questionné le droit d'asile et la protection des réfugiés politiques. Cette conférence de 1898, avec son échec à trouver une définition partagée du terrorisme, reste le moment fondateur d'une dissonance qui persiste jusqu'à notre époque contemporaine. La quête d'une définition du terrorisme se poursuit tout au long du XXe siècle et se pose, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'Organisation des Nations Unies, organisation qui a inscrit dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À l'heure des décolonisations, l'illégalité du terrorisme s'oppose à celle de sa possible légitimité dans une guerre de libération. Les débats se font tellement inextricables, notamment autour des questions liées à la situation israélo-palestinienne, que le Comité contre le terrorisme, mis en place en 2001, renonce officiellement à une définition du terrorisme et laisse place à une pratique inaugurée dans les années 30, l'établissement de listes de groupes ou d'États aux activités à caractère terroriste. Des listes que l'on retrouve dans la plupart des États de la planète sans qu'elles ne se recoupent. Le terrorisme ne fait toujours pas consensus au plan juridique, mais il divise et c'est bien là son arme la plus décisive.
Merci beaucoup Anaïs Quien et à demain pour un nouveau journal de l'Histoire. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Heilig avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Fudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. À écouter ainsi que les précédentes et podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, il n'y a plus de saison, invention d'un discours.